Donc ce soir, nous allons voir plus particulièrement les fins dernières à cause de l'actualité, de la fin de l'année liturgique, hein, non pas que mes voeux s'accomplissent tout de suite. Voilà. Je voulais, dans la suite de mon sermon sur la Sainte Cécile, les fins dernières, je vais les prendre du catéchisme catholique du cardinal Gaspari. Imprimatur de 1932 dans son édition du CERF à Juvisy, Seine-et-Loire, dans sa traduction française. C'est la traduction française du catéchisme du cardinal Gaspari qui, lui, est donc un tout petit peu plus récent. Mais que vous trouvez en français aux éditions du CERF de 1932. Page 331 du catéchisme pour adultes du cardinal Gaspari, chapitre 12, les fins dernières. Question 580. Que Dieu nous propose-t-il dans la Sainte Écriture comme moyen très efficace d'éviter le péché? On se demande, mais où est le rapport avec les fins dernières? On était là pour avoir des choses croustillantes sur la mort et tout. Non. Un moyen très efficace d'éviter le péché. Ben justement, Dieu, dans la Sainte Écriture, nous propose comme moyen très efficace d'éviter le péché la considération des fins dernières. Ah. Comme disait un vieux missionnaire, la mort est une grande prédicatrice. Elle vous invite à réfléchir sur votre vie, sur ce que vous avez fait dans votre vie, au moment d'agoniser, voyez, sauf si vous êtes écrasé par un bus alors que vous regardez votre smartphone et qu'il est à pleine vitesse, à 50 km/h, avenue Raspail. Vous voyez, là, en général, ça ne va pas bien se passer. Et donc, en nous donnant cet avis, c'est l'Ecclésiastique, chapitre 7, verset 40, « Dans toutes vos actions, souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez jamais. » C'est impressionnant. Si en effet on était janséniste à fond et qu'on ne penserait qu'à la mort et au péché tout le temps, sans compter que nous serions particulièrement scrupuleux et à moitié fous, au moins on pécherait peu. Voilà. Mais toutefois, il y a quelque chose de vrai. Qu'entend-on par ces mots, fin dernière? Par ces mots, fin dernière, on entend ce qui arrive tout à la fin aux hommes. C'est-à-dire la mort, le jugement, l'enfer, le paradis. Mais après le jugement et avant le paradis, il peut y avoir le purgatoire. Point. Est-ce que vous pouvez trouver catéchisme plus clair que ça? Je ne pense pas. Alors on va peut-être aller dans le catéchisme à l'usage des diocèses de France, qui est dit catéchisme du chanoine Quinet. J'avais un exemplaire. Je ne sais plus où il est. Alors, si on cherche dans le catéchisme à l'usage des diocèses de France, mais dans son explication de Monseigneur Audelan, évêque de Blois, et du chanoine Eugène Duplessis, du chapitre de Notre-Dame de Paris. Paris, édition École et Collège, 1939. Pour les classes de 6e, 5e, 4e et 3e. C'est joli. Alors, Si je regarde les fins dernières. Les fins dernières de l'homme, page 142. Eh bien là, au numéro 187, à la question 187, il ne parle pas directement des fins dernières. C'est la 24e leçon, les fins dernières, mais il parle de la, comment dire, par la fin du « Je crois en Dieu ». Que signifient ces mots? « Je crois la résurrection de la chair ». Que signifient ces mots? « Je crois la vie éternelle ». Et là, on retrouve la même réponse. Là, je crois la résurrection de la chair signifie que tous les hommes ressusciteront à la fin du monde par l'effet de la toute-puissance de Dieu. Même les damnés. Tous les hommes. Donc si vous entendez un homme qui est revêtu du sacerdoce, prêtre, évêque ou autre, archevêque et autre, qui vous dit que les damnés sont anéantis, c'est une hérésie. Qu'est-ce que ça veut dire anéanti? C'est-à-dire que Dieu, plutôt que de laisser quelqu'un dans la haine et être brûlé dans le feu éternel, l'anéantit, lui retire l'être, il n'existe plus. C'est une hérésie. Parmi toutes les hérésies qui courent en ce moment, c'est pas... Je crois la vie éternelle. Ces mots, je crois la vie éternelle, signifient qu'après la vie présente, il y aura une autre vie qui ne finira jamais. C'est intéressant quand même. Il convient de rappeler ici un autre article du symbole, c'est le petit « Je crois en Dieu ». Le symbole des apôtres, c'est le petit « Je crois en Dieu », dont l'explication complète a été renvoyée à la présente leçon. Ces trois articles nous invitent à parler des fins dernières de l'homme, c'est-à-dire des vérités qui concernent la destinée finale de chaque homme en particulier et de l'humanité en général, on l'a vu la dernière fois. Quelles sont les fins dernières de l'homme? Les fins dernières de l'homme sont la mort, le jugement, le ciel ou l'enfer. Pour être complet, il faut ajouter à ces quatre fins trois autres fins. Et pour les mettre toutes en ordre, les énumérer ainsi. La mort, le jugement particulier, le purgatoire, la résurrection générale, le jugement dernier, le ciel ou l'enfer. Nous allons dans l'ordre suivi par le catéchisme les passer en revue et en dire ce qu'un chrétien doit savoir. Je retourne à Gaspari. Question 582. Quelle réflexion devons-nous surtout faire à propos de la mort? À propos de la mort, nous devons surtout penser quel est le châtiment du péché, et j'ajoute du péché originel. Le moment d'où dépend notre éternité. Donc, c'est d'abord châtiment du péché. Nous n'aurions pas dû être là ce soir. Normalement, Dieu aurait dû dire à Adam et Ève, couple monogénique, dont nous sommes tous issus par notre sang, nous sommes tous du même ADN, vous pourrez toujours essayer de trouver pourquoi vous avez la peau comme ci, les cheveux comme ça, vous y arriverez pas. Parce que c'est un séquençage d'acides aminés qui est extrêmement... Enfin, peut-être qu'un jour on arrivera, on ne sait jamais, les nostalgiques de... d'Hitler ou des racistes finis pourront essayer de trouver comment on a le nez comme ci ou les oreilles comme ça, mais à mon avis, ils vont chercher longtemps. Oui. Eh bien, ici, voyez-vous, le châtiment du péché, c'est d'abord le péché originel, et c'est d'abord c'est le fait que Adam et Ève auraient dû mourir. Nous voulons exister et être tout-puissants sans Dieu. Nous voulons lutter contre Dieu. Et bien à ce moment-là, Dieu aurait pu dire, et bien maintenant, pour vous punir, je vous tue. Voilà. Et bien il ne nous a pas tués, mais il fallait bien que quelqu'un meure pour accomplir la justice par rapport à l'injustice de dire mais j'existe sans Dieu. Parce que s'il nous a fait le coup, vous voyez, ah tu veux exister sans Dieu, eh bien je te fais exister sans moi. Poum, la personne meurt. Voire même, pour faire plaisir aux hérétiques, anéanti. Non. Adam et Ève ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et celui qui est mort à leur place, c'est Jésus. C'est important, ça, quand même. C'est pour ça que la mort du Christ sur la croix, et non pas comme certaines hérésies disent, que le corps du Christ, enfin, que le Christ a été substitué, c'est qu'un autre qui est mort à sa place, ou un ange qui a fait un corps d'emprunt pour mourir sur la croix, c'est faux. Alors, la mort est d'abord le châtiment du péché. Mais c'est terrible de dire que c'est un châtiment du péché. Dieu est méchant, donc on ne peut plus le dire. Donc effacez de votre mémoire ce que je viens de dire. Et pourtant c'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Dieu est gentil, Dieu est bon et miséricordieux, mais Dieu est juste. Il y a une chose qu'il n'a pas retirée, c'est la mort. Parce qu'on aura beau être les plus irénistes et les plus gentils possibles, présenter la vie chrétienne comme une joie permanente, un alléluia extraordinaire, ben vous allez mourir. Et dans les hôpitaux, c'est pas alléluia toutes les deux minutes. Hein. Donc il faut bien rendre compte de la mort. Eh bien, si on ne rend plus compte de la mort, on finit par la reprocher à Dieu, même des prêtres, oui, même des évêques. Parce que finalement, en effet, s'il est si bon, comment ça se fait qu'on meurt, en fait? Parce que ça arrête la vie humaine. Du fait du châtiment général du genre humain, mais qu'on n'admet plus, et du fait aussi de notre... Qu'on s'arrête dans la voie du péché. Alors vous me direz, mais les saints, les innocents, eh bien eux participent à la peine générale de l'humanité, donc ils meurent comme tous, comme les pécheurs, mais eux, leur mort est méritoire, enfin est source de grâce pour les autres, dans la manière dont ils offrent leur mort. Vous voyez ? Et si ce n'est... Tandis que vous avez des hommes extrêmement cruels, et des assassins, ou même des assassins spirituels, qui eux mériteraient la mort corporelle aussi, pour leur propre péché. Oui. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Louis de Gonzague, ne méritaient pas de mourir pour leur propre péché. Mais ils sont morts pour accompagner le genre humain. On ne leur connaît que des péchés véniels.
Oui, mais même un péché véniel, c'est quand même une offense qui est faite à Dieu.
Oui, mais ça ne mérite pas la mort, par définition. C'est le péché mortel qui mérite la mort, par définition. D'où péché mortel. Oui. Péché véniel, c'est petit péché pardonnable. Vous voyez, par exemple, vous énervez parce que quelqu'un, une institutrice s'énerve parce que quelqu'un n'a pas appris sa leçon, a une mauvaise note, et l'institutrice dit, mais quand même, vous avez été paresseux. Mais elle le fait excessivement et l'humilie devant toute la classe. Vous voyez ? Mais ce qu'elle dit est juste, mais elle était fatiguée ce jour-là. D'habitude, elle ne fait pas ça, d'humilier un élève devant tout le monde. Mais elle ne mérite pas la mort, vous voyez, pour ça. Par contre, une personne s'est rendu coupable de détournement de fonds très important dans une entreprise et tue le comptable. Eh bien, il mérite la mort parce qu'il a tué un de ses frères. Ensuite, la peine de mort, c'est du droit pénal de la justice civile. Mais en soi, il mérite d'être tué. Mais on peut être miséricordieux avec lui, on peut ne pas le tuer physiquement, on peut l'inviter à se convertir, mais son âme est morte. Il a perdu l'amour de Dieu et du prochain, ça c'est sûr. Alors, châtiment du péché. Et c'est quoi aussi la mort? Le moment d'où dépend notre éternité. Je ne sais pas C'est le cardinal Gaspari qui a tout écrit, et c'est d'une précision théologique extraordinaire. C'est quoi la mort? C'est le châtiment du péché. Ouh, déjà, vous avez toute la théologie du péché originel. C'est le moment d'où dépend notre éternité. Car vous avez beau être le dernier des monstres, si vous vous convertissez, vous pouvez vous sauver. Ce qu'on appelle les voleurs de Dieu. Oui, mais ils méritent la mort éternelle, ils méritent l'enfer. Ben non, si de toute sa liberté, il saisit la grâce de la conversion, il sauve son âme. Et dans la vie éternelle, Dieu vous montrera sa conversion et vous ne lui reprocherez pas d'être avec vous, d'être là. Il s'est converti. Donc c'est jusqu'à la mort qu'on peut se convertir. D'où un célèbre saint qui, Saint Joseph Calasso, mais je crois que je me trompe, qui a été parmi ses missions caritatives aussi dans la ville de Rome, je sais plus. Enfin, c'est un saint qui accompagnait aussi des condamnés à mort. Et il les exhortait, il les exhortait, il les exhortait. À un moment donné, il y avait même un pont où passait comment dire, la charrette. Et il y avait une belle image de la Vierge Marie. Et à ce moment-là, en général, il les gagnait. Parce qu'il disait, regarde ta mère, tout ça. Voilà. Et bien là, il y en a un qui a dit non, 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 non. Jusqu'au bourreau. Le bourreau lui a coupé la tête. Et Saint Joseph Calasso a été tellement déçu de cette méchanceté, de cette dureté de cœur, il a pris la tête, il l'a montrée à la foule, lui a dit, regardez la tête d'un damné. Parce qu'à aucun moment, il a exprimé le moindre regret. Eh bien, dans son procès de canonisation, on lui a reproché cette phrase, enfin, on a reproché cette phrase pour sa canonisation. Et on a dit, mais oh, un péché véniel, quoi. Voilà. Pour le plaisir d'un bon mot, on proclamerait, voilà. Donc, le moment d'où dépend notre éternité. En ce sens qu'après la mort, il ne reste plus de place pour la pénitence, c'est-à-dire le regret des péchés, et le mérite, la réparation des péchés. Les mots sont très pesés. C'est un catéchisme, un vrai, vrai, de vrai. En ce sens qu'après la mort, il ne reste plus de place pour la pénitence et le mérite, et que son heure et ses circonstances sont incertaines. Son heure et ses circonstances sont incertaines. Alors, dans le catéchisme pour les enfants, on dit, qu'est-ce que la mort? Question 190 du catéchisme pour les diocèses de France. La mort est la séparation de l'âme et du corps. Là, vous voyez, c'est pas très spirituel. Pour les adultes, c'est plus complet, vous voyez. Châtiment du péché, moment d'où dépend notre éternité, en ce sens qu'après la mort, il ne reste plus de place pour la pénitence et le mérite. Qu'arrive-t-il d'abord à l'âme, juste après la mort? Question 583 du catéchisme du cardinal Gaspari. Catéchisme pour les Églises de France. Que devient notre corps après la mort? Après la mort, notre corps se corrompt et tombe en poussière, mais il ressuscitera au dernier jour. Voilà. L'homme est composé d'une âme et d'un corps. Tant que ces deux éléments sont réunis, l'homme est en vie. Leur séparation constitue la mort. C'est clair, hein? Après la mort, le corps, séparé de l'âme qui le faisait vivre, qui le maintenait dans un composé uni, se décompose. Vous savez, vous avez des organes, vous avez des bactéries aussi qui sont là, tout ça, mais l'âme est un principe d'unité du corps. Et ça fait fonctionner tous les organes indépendants en même temps. Mais comment vous le savez? Ben parce qu'il y a un avant et il y a un après, voyez. Quand l'âme sort du corps, vous voyez beaucoup moins bien, le cœur, ça va pas très bien, le foie fonctionne, ne fait plus son service. Oui. Mais c'est peut-être aussi parce que le cœur s'est arrêté que l'âme ne peut plus coordonner le corps. Donc elle s'en va. Ah ben, puisqu'on n'a plus besoin de moi, hein, c'est comme ça. Il se décompose peu à peu. Vous voyez, et tombe en poussière. Il se déshydrate, et puis ce qui reste solide s'abîme. Si vous êtes dans une atmosphère sèche, ça se conserve beaucoup plus. Si vous êtes dans l'eau, alors là, ça se dissout, quelque chose de bien. Nous parlerons plus loin du fait et du motif de la résurrection dont le corps sera l'objet au dernier jour. Quant à l'âme, qui est immortelle, parce qu'elle n'est pas composée de matière, qu'elle ne peut pas disparaître, elle ne peut être qu'anéantie par Dieu, l'âme. Donc elle est, oui. Au point que, je vous en avais déjà parlé dans d'autres leçons, tout ce qui a un principe de mouvement a une âme. Ce principe de mouvement n'est pas composé de matière. Les plantes et les animaux ne sont pas des mécanos. Donc l'âme végétale et l'âme animale est elle-même immortelle. Mais on considère en philosophie qu'elle est détruite, qu'elle est anéantie, qu'elle est réduite à la puissance de la matière. Elle est anéantie. Il n'y a pas tout un fantôme, des milliards de fantômes de moustiques. Oui. Ils sont là. Oh bon, on a perdu notre corps, là. Ah oui. Ils sont là. Bzi, 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 bzi. Ils ne pouvaient même plus perdre bzi, puisqu'ils n'ont plus d'ailes. Et toutes les herbes. Vous vous rendez compte? Tous les épis de blé, chaque année. Vous voyez, les véganes, ils sont là. Ils font des cimetières d'épis de blé. Ils pensent à toutes les âmes des épis qui sont là. Depuis des siècles. Vous voyez, elles invoquent les âmes des épis de blé. Oui.
Pour les animaux évolués, l'Église n'a pas tranché. On peut penser que leur âme est immortelle. Enfin,
Et la survivance d'une âme, non composée de matière, donc, c'est lié à des actes en dehors de la matière, abstraits. On ne les observe que chez l'homme, d'où le caractère spirituel de l'âme humaine. Tandis que le chien, tout gentil qu'il est, dès qu'il est dehors ou dès qu'il est même à l'intérieur, il ne veut renifler que des odeurs. Mais il est très gentil, à un moment donné, il s'arrête un peu quand même, il est affectueux. Mais ce sont des êtres qui vivent dans le moment, dans l'instant. Alors comme les chiens sont extrêmement gentils avec nous, on ne pense pas au chacal. Mais le chacal ou les chiens de prairie ont les mêmes activités que nos chiens. Alors si on veut nos chiens qui sont si attachants et si affectueux, on veut qu'ils ressuscitent un jour, il faut aussi que d'autres animaux ressuscitent, si on est juste. Ce sont quand même des animaux, les chiens. Le bon Dieu ne leur a pas donné l'intelligence et la volonté. Ils sont des animaux quand même. Mais c'est vrai que le bon Dieu leur a donné une capacité de patience et d'absence de peur de l'homme qui est renversante et qui est une très très grande consolation pour beaucoup d'êtres. Voyez. Mais Dieu, comme il va faire une nouvelle terre, vu que après le feu de la fin des temps, il va réorner la terre. Donc on peut penser qu'il n'y aura pas que des plantes. Il y aura aussi des animaux. Et ça, alors là, ça n'engage que moi. Mais le bon Dieu, par délicatesse, peut très bien ressusciter un animal qu'on a aimé. Ça. Vu qu'il va réorner la terre, ça ne va pas être une surface lunaire carbonisée, hein, là où on va ressuscité. Ça sera beau. Même les Romains, hein, les Grecs et les Romains, considéraient que le paradis, pour ceux qui avaient fait le bien, s'appelait les Champs-Élysées. C'est-à-dire des prairies splendides et tout. Les Champs-Élysées. Donc, le vrai Dieu va pas faire moins que les dieux de l'Olympe, quand même. Voyez. Or, je pense pas qu'il y aura que des fleurs. Ce qui serait amusant, c'est qu'il y a des insectes qui ne se occuperont que des fleurs, pas de nous. Mais on ne sait pas exactement à quoi ressemblera ce réornement de la terre. qui est certain. Mais là, on n'a pas de réponse précise. Le réornement de la Terre. On ne va pas ressusciter sur une surface de la Terre carbonisée par le feu de la fin des temps. Qui est deux fois le feu de la fin des temps. Donc la surface de la Terre sera cramée de chez cramée. C'est-à-dire qu'il y aura des volcans partout, du feu, des météorites. Ça sera très très chaud. Et même ceux qui seront dans des abris à 10 km sous la Terre seront cuits. Et tout le monde mourra à la fin des temps. Et par le feu, par la chaleur. Et ça, c'est affirmé systématiquement. Mais je ne refais pas le cours de la dernière fois, mais c'est très important. Il n'y aura pas un survivant. Tout le monde mourra. Alors, quant à l'âme qui est immortelle, elle survit au corps, auquel elle sera de nouveau réunie, et cette fois, pour toujours. Ceux qui sont dans la vision de Dieu, ou ceux qui sont dans la haine de Dieu. Corps glorieux ou corps ténébreux. Rien n'est plus certain que le fait de notre mort. Il ne s'est pas cassé hein, pour faire cette phrase. Mais nous ignorons son moment et la manière dont nous mourrons. Ah, il copie Gaspari ou... Aurons-nous le temps de nous préparer à la mort? Nous ne le savons pas. Et pourtant, notre sort éternel sera fixé d'après l'état où se trouvera notre âme au moment de notre mort. Il nous importe donc d'être toujours prêts à paraître devant Dieu en évitant avec soin le péché, et surtout le péché grave, qui nous fait perdre la vie surnaturelle. Donc lorsqu'on a fait une faute grave, vous voyez, par exemple, vous êtes là, vous avez une collègue de bureau que vous détestez particulièrement, qui vous déteste, mais vous ne faites pas trop de mal, c'est elle qui fait du mal, qui vous déteste, qui veut vous faire renvoyer, tout ça. Et à un moment, vous avez un éclair de haine dans votre âme. Elle est dans l'escalier de secours de l'immeuble. Vous êtes toutes les deux à discuter, puis vous avez une pulsion. Vous avez dit, c'est des grands escaliers, vous la poussez. Et elle meurt. Vous l'avez tuée. Mais habituellement, vous êtes assez gentil, vous êtes machin. Et elle était là, elle dit alors, d'une méchanceté gratuite, des remarques désobligeantes et cruelles sur vous. Et là, elle a vraiment pas été futée. Et elle dit ça alors que vous descendiez l'escalier, et là, vous la poussez. Et elle meurt. Imaginons maintenant que personne ne vous avait vu. Et que vous êtes ni emprisonné, enfin bon, allez, imaginons que vous êtes emprisonné, mais le soir même, vous dites, Seigneur Jésus, je ne comprends pas ce que j'ai fait, je regrette de tout mon cœur, vous n'avez pas encore de prêtre, et là, tout d'un coup, vous avez une crise cardiaque. Vous me direz, là, c'est vraiment lourd comme histoire. Il n'empêche que vous pouvez, par votre habitude à faire le bien, eh bien, dire « Seigneur, je regrette de tout mon cœur et sauver votre âme. » Ce n'est pas parce que vous avez péché que vous allez être damné. C'est parce que vous aimez votre péché. Vous avez des gens en état de faiblesse. Je sais pas, imaginons comment dire quelqu'un qui a conscience... Je multiplie les exemples idiots. Vous avez des jeunes qui n'ont pas d'éducation, des parents qui étaient eux-mêmes concubins, ils ont été dans des écoles où on leur a jamais parlé de morale. Mais des personnes à la conscience assez... une personne à la conscience assez fine qui veut faire le bien qu'il connaît au moment où il le connaît. Et qui vit en concubinage, il a toujours vu ses copains en concubinage, ses parents en concubinage. Il n'est pas baptisé, il ne sait pas exactement la morale. On peut imaginer des gens dans des situations-là actuellement. Mais si vous voulez, alors qu'il dort à côté de sa concubine, il a une attaque d'apoplexie, il étouffe, il meurt. Et si vous voulez, chaque soir, comment dire, l'Esprit Saint lui faisait réviser l'état de son âme ou régulièrement, et il voulait faire le plus de bien possible. Reste à savoir s'il croyait de bonne foi ou sincèrement, dans l'ignorance, qu'il y a un Dieu qui récompense. Mais là où les hérétiques n'ont pas tout à fait tort, un point de vérité dans une hérésie, c'est toujours la même chose, c'est qu'en effet, avec la sincérité véritable, vous sauvez votre âme. Avec la bonne foi véritable, vous sauvez votre âme. Mais on ne doit pas laisser les gens dans l'erreur. On doit aussi quand même les tirer vers le haut. Ici, la question ci-dessus nous a rappelé que tous les hommes ressusciteront à la fin du monde, par l'effet de la toute-puissance de Dieu, selon l'enseignement du symbole des apôtres, je crois la résurrection de la chair. La question nous disant qu'après la mort, notre corps tombe en poussière, nous avertit qu'il ressuscitera au dernier jour. Enfin, nous allons maintenant donner l'explication du pourquoi de cette résurrection. Pourquoi notre corps ressuscitera-t-il au dernier jour? Question 192 du catéchisme des diocèses de France, du temps où on apprenait le catéchisme dans les diocèses de France. Notre corps ressuscitera au dernier jour pour participer au jugement général et pour être associé à la récompense ou à la punition de l'âme, comme il a été associé à ses bonnes ou à ses mauvaises actions.